لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد nous sommes toujours dans la série de cours, en tout cas pour le deuxième cours, l'explication des trois fondements de Cheikh Mohamed Abdel Wahhab rahimahullah ta'ala, explication faite par le noble Cheikh, Cheikh Obeid ibn Suleiman al-Jabiri, hafidahullah ta'ala, ou Cheikh Obeid ibn Abdillah ibn Suleiman al-Jabiri, hafidahullah ta'ala. Donc on continue directement là on s'était arrêté la dernière fois. On avait vu les trois premiers points, hein, et le maître commençait des chirmes en disant I'lam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail al-oula العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة الثانية العمل به الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الآداء فيه والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. On avait vu les trois premiers points qui étaient العلم. On avait vu que c'était la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait expliqué ce que c'était. On avait vu la connaissance du prophète, de son prophète alayhi salatu wassalam. On avait vu en tout cas on avait vu que l'ilm c'était la connaissance de ces trois choses là, la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète alayhi salatu wassalam et la connaissance d'Islam par les preuves. On avait vu que Cheikh Obeid Jabiri avait tiré de ce point là, hein, la connaissance de l'Islam par les preuves, une règle, qui sait me la rappeler, qui est très très importante par les règles de la religion, qui sait me rappeler cette règle là en arabe ou en français? Non. Sauf, continue. Ah, sauf. Voilà, tu peux le dire en arabe. C'est très simple. Aslu fil ibadat al man'a illa binas. Très très facile. Al aslu fil ibadati al man'u illa binasin. C'est-à-dire que la base dans les, hein, on avait dit que la base dans les adorations, c'était que quoi? C'était que l'interdiction, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tant qu'il n'y a pas une preuve. Qui sait me dire c'est quoi le nas? Cheikh Obeid Jabiri avait expliqué c'était quoi le nas. Qui sait me dire? Kitab sunna wa? El ijma'. Barakallahu fik. Donc, al kitab wa sunna wa l'ijma'. Hein? C'était quoi le Coran? La sunna et l'ijma', c'est-à-dire le consensus, l'unanimité. D'accord? Et il avait dit une parole très importante aussi sur le fait que chaque parole, chaque action, chaque groupe, chaque personne, on doit les peser selon une balance. En tout cas, deux balances qui sont. Non. Barakallahu fik, al-nas wa al-ijma'. Hein? C'est-à-dire qu'on regarde c'est quoi, si sa parole ou son groupe ou son action, etc. Et quoi? Cher, il avait parlé surtout de la parole et de l'action. Il avait dit quoi? De voir ça selon ces, de peser ça selon ces deux balances-là, c'est-à-dire al-nas ou al-ijma'. Et al-nas, c'est quoi? Il avait dit c'est al-kitab ou sunnah, voilà exactement. Et al-ijma'. Donc on a ces deux balances-là, c'est al-nas, al-kitab ou sunnah ou al-ijma'. Hein? D'accord? On avait vu ensuite l'amal ou bihi. Le Cheikh avait donné une très belle image, il avait donné une image de celui qui a de la science et qui n'a pas d'action. Il l'a fait ressembler à quelque chose, c'était quoi? Non, c'était un arbre sans fruit, non, exactement. Hein? Et puis, on avait vu aussi Ad-Dawatu Ilay. Hein? Qu'est-ce qu'il avait dit, Cheikh, par rapport à ça? Et c'est quoi Ad-Dawatu Ilay? c'est? Il avait parlé de ça, il avait parlé aussi de quoi de. Du fait d'appeler à cela. Parce qu'une fois que tu sais, une fois que tu appliques, tu appelles. Hein, tu fais la da'wa. Et le quatrième point, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. Hein, c'est as-sabr al-adhafi. On commence directement en disant Warrabi'a as-sabr al-adhafi. Yani, donc c'est l'explication de Cheikh Aoubaid maintenant. Fi dinillah. فإنه في كل مكان وزمان يلحق الدعاة إلى الله على بصيرة أذى لكنه يختلف باختلاف الزمان والمكان فإذا كانت السنة قوية والعقيدة السلفية قوية قل الأذى فإذا ضعفت في النفوس العقيدة وضعف التمسك بالسنة استغرب الداعية إلى السنة وإلى تصحيح المعتقد فيكثر الأذى والذي يريد أن يقيم حجة الله على العباد يجب أن يصبر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبالمصلحين من أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولهذا تجد أكثر الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل من أتباعهم من الدعاة إلى الله على بصيرة والإنسان حينما يتجند داعية من الله إلى الهدى ودين الحق قد يستشعر غربة وتنتابه الوحشة لقلة السالكين معه وكثرة المخالفين له ولكن هذا لا يضره فإنه لا يجوز الاغترار بالكثرة ولا الزهد في القلة هذه إحدى المسائل التي استنبطها الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد في مسائله على باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب قال يعني معلق الكتاب سيكي كيف التعليق دو كتاب دو ليفر كيسي مغابلي سيكي كيف يغروبي ليفر كيف الزناتاشن بات باج سيشيخ عبيد لمام سيكي C'est un élève qui est d'origine yéménite, naam, qui s'appelle Abul Harith. Abul Harith al-Yémeni, là, avait dit le Cheikh. Hein? D'accord ? Dans mes dernières nouvelles, qui Allah Alim est toujours près du Cheikh. Donc ici, on va s'arrêter à traduire, on va couper un peu pour que ça ne fasse pas trop long pour les frères francophones. Donc ici, le quatrième point. Donc après les trois premiers points qu'on a vus, parce que le Cheikh, il a dit « I'alam rahimakallah annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail » Quatre choses, d'accord ? Quatrième point, c'était quoi? Patienter sur le mal encouru. En cela, c'est-à-dire quoi? Lors de l'appel. Mais on va voir, Inch'Allah, le Cheikh va vraiment bien expliquer ici. Alors, on a l'explication du Cheikh Abdel Jabiri, hafidahullah, qu'Allah le préserve, et il dit, c'est-à-dire dans la religion d'Allah. Car à toute époque et en tout lieu, ceux qui appellent à Allah avec clairvoyance, hein, avec science, subissent, encourent le mal, hein, ou du mal et des torts. Des préjudices lors de cet appel. Mais cela varie en fonction du lieu et du temps. Si la sunna est en position de force, et la croyance salafia est en position de force, les préjudices encourus sont moindres. Tandis que si la croyance est faible chez les gens, et l'attachement à la sunna est faible, alors le prêcheur, celui qui appelle à la sunna, et a corrigé la croyance, devient étranger, ce qu'on appelle gharib. Hein? Et ça devrait rappeler un hadith très connu du prophète. Hein? Donc le prêcheur, celui qui appelle à la sunna et a corrigé la croyance, devient étranger. Et les préjudices envers lui augmentent. Et celui qui veut dresser les preuves d'Allah aux gens, se doit de patienter. À l'exemple du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et à l'exemple des sincères, parmi les imams de la guidance, parmi les compagnons, et ceux qui leur ont succédé, et ceux qui sont venus après eux. Et c'est pour cela que tu trouveras que les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes et leurs suiveurs. Et d'ailleurs, c'est un hadith authentique. Hein? Parmi ceux qui appellent Allah avec science, et ce de manière graduelle en fonction de leur position. C'est-à-dire que, hein, au plus, ta position est grande dans la da'wah, dans la foi, hein, au plus ton, hein, au plus quoi tu, naam, et les preuves seront grandes, naam. Lorsque l'individu se consacre à l'appel à Allah, à la guidance et à la religion de vérité, il se peut qu'il se sente étranger et que s'empare de lui un sentiment de solitude à cause du peu de gens qui empruntent le chemin avec lui. Allahu Akbar. Et à cause du grand nombre de gens qui le transgressent. Mais tout ceci ne lui nuit pas, car il n'est pas permis de se faire leurrer ou de se leurrer par le grand nombre, ni de se contenter du petit nombre. Ce point-là est un des points que Cheikh Mohammed Al-Wahhab, rahimahullah, hein, a extrait de son livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid. Hein, quand vous regardez Kitab al-Tawhid, vous avez le chapitre, par exemple, Bab Fadl al-Tawhid, hein, et puis vous avez les preuves là-dessus, et à la fin vous avez le Masa'il. Hein, vous avez le Masa'il, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est en fait les choses, que les points importants qui ont été tirés de ce bab-là, en fonction des adilas shara'iyya qu'il y a là, d'accord? Et bien justement, Cheikh Mohammed al-Wahhab, hein, a tiré dans Kitab Tawhid, il a dit, le 15e point, le fruit de cette science, et c'est le fait de ne pas se laisser leurrer par le grand nombre, et de ne pas se contenter du petit nombre. Pour ceux qui veulent aller voir une référence, voir Fath al-Majid. Hein? Fath al-Majid, c'est une des expressions les plus connues de Kitab al-Tawhid, na'am. Hein? Et c'est qui a fait Fath al-Majid? C'est le petit-fils de Mohammed al-Wahhab, rahmatullah alayhi, na'am. D'accord? Eh bien, allez voir dans Fath al-Majid, Sharh Kitab al-Tawhid, page 83. Et Cheikh Mohammed al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dit, et la preuve de cela est la parole d'Allah. Et pour ceux qui veulent le nom du chapitre dans Kitab al-Tawhid, avant que je continue, c'est chapitre celui qui authentifie le Tawhid rentre au paradis sans compte. Si vous voulez le titre en arabe, c'est Man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. C'est ça le titre du chapitre dans Kitab al-Tawhid. D'accord? Et c'est un des premiers chapitres. Donc ici, Cheikh continue en disant, et la preuve de cela est la parole d'Allah. Hein? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Évidemment, c'est la traduction du sens de Sourate al-Asr. Hein? Parce que j'avais dit, on ne dit pas Allah a dit et on dit le verset ou le Sourate en français. Hein? Mais on dit la traduction du sens de la parole d'Allah, dans la traduction approximative de la parole d'Allah. D'accord? C'est un point important à rappeler toujours. Donc ici, Cheikh dit donc, قال المصنف رحمه الله والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة العصر. Donc l'explication de Cheikh Obeid maintenant là-dessus. نأتي إلى السورة الكريمة وهي قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا الأسلوب يسمى باللغة العربية أسلوب قسم ومثله والليل والشمس. والقسم من الله عز وجل بمخلوقاته كثير في القرآن ولله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته تشريفا للمقسم به أو تنبيها على عظم شأنه أما المخلوق فلا يحل له القسم بغير الله عز وجل لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك والحديث أخرجه الترمذي في جامعه كتاب النذر والأيمان باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. انظر يعني الشيخ دون ريفيرونس اك التحقيق د احمد شاكر دون ريفيرونس 1535 اي سا حديث ان فيت د عبد الله بن عمر. دونك ici qu'est-ce que Cheikh Obeid al-Jabiri حفظه الله nous dit, hein? Donc il a rapporté la parole de Mohammed al-Wahhab qui est le maître en fait du livre, hein? C'est-à-dire la preuve de cela, et on va voir c'est la preuve de quoi, des quatre choses qu'on a vues justement dans cette sourate là, hein? Et bien c'est quoi, c'est la sourate al-Asr, hein, que je pense vous connaissez tous. Et donc Cheikh nous dit, voyons cette noble sourate. Et c'est la parole d'Allah, ou en tout cas la traduction du sens, par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance, la patience. Et donc c'est la traduction du sens surat al-Asr, comme on l'a dit. Et ce style dans la langue arabe s'appelle uslub qasamin. Pourquoi? Qui sait me dire pourquoi ici? Hein? Qasam, c'est le fait de jurer. Je vous aide un peu. Uslub qasamin. Pourquoi? C'est très simple ici. Hein? Exactement, parce que c'est quoi? Ici, Allah subhanahu wa ta'ala jure, et Cheikh va l'expliquer après, il jure par Al-Asr, Wal-Asri. Et Cheikh nous dit justement plus loin, il dit, c'est comme d'ailleurs dans Wal-Layli, hein? Wal-Shamsi, hein? Wal-Duha, comme tu dis, hein? Wal-Duha. Hein? Donc ça, c'est des autres hein, types d'exemples qu'on peut tirer du Coran, hein? Où Allah azawajal, on appelle ça en arabe Uslubu Qasamin. Uslubu Qasamin. Et en fait, qui exprime le fait de jurer. Comme il a dit le shir, wal-layli, par la nuit, par le soleil. Mais attention, ici, un point important à rapporter, c'est Allah jure par ses créatures de nombreuses fois dans le Coran. Et Allah jure par ce qu'il veut parmi ses créatures. Hein? Pourquoi? Pour anoblir la chose par laquelle on a dit teshrifan. Hein? Teshrifan. pour anoblir la chose par laquelle il a juré, ou pour attirer l'attention sur la grande position de cette chose, tandis que nous ne pouvons pas jurer par autre qu'Allah. Ça faut faire attention ici, hein, qu'on ne comprenne pas par cela qu'on puisse nous jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Allah jure par ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala parmi ses créatures, d'accord, comme le dit le cheikh ici. Voilà, que nous, il nous est interdit de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh va expliquer. Et la preuve de cela, hein, le fait qu'on ne peut pas jurer par autre qu'Allah, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: celui qui jure par autre qu'Allah aura certes associé. Man halafa bighayri Allah faqad ashrak. Hein? Donc c'est quoi? C'est une association, c'est un shirk. Na'am. Et ce hadith est rapporté par At-Tirmidhi dans son Jami', comme je vous ai dit, c'est hadith numéro 1535, d'après une narration de Abdullah ibn Omar radiallahu anhuma. Et donc, si vous voulez, la référence qu'il a donnée, c'est avec la correction d'Ahmed Shakir, le grand muhaddith égyptien, rahmatullah alayh, hein, qui a donc fait le tahqiq de Jami' At-Tirmidhi. Et les lettres par lesquelles on jure en arabe sont au nombre de trois. Donc maintenant, on rentre un peu dans la langue arabe, on prend un peu de fawaïd au niveau de la langue arabe, c'est quoi? Eh bien, il y en a trois. C'est At-Ta, Wal-Ba, Wal-Waw. At-Ta, Wal-Ba, Wal-Waw. Donc, quand on regarde dans l'Ajr-Rumiya, hein, quand il dit « وَحُرُوفِ الْكَمْدَ حُرُوفِ الْجَرْ وَحُرُوفِ الْقَسَمِي وَهُوِيَا الْبَا » ou dans l'ordre « الْبَا وَالْتَا وَالْوَا » hein, « الْوَاو » d'accord ? Je ne me souviens plus de l'ordre, mais il cite les trois. Hein? D'accord ? Donc, si on jure avec la lettre « ba », hein, comme quand on dit « billahi » par exemple, on se doit de citer le verbe avant la lettre ou après la lettre. Hein? D'accord ? الشيخ نودي سي وحروف القسم ثلاثة وهي الواو والتاء والباء والباء يجب اقترانها بالفعل متقدما عليها أو متأخرا عنها. Example en arabe: أقسم بالله أو بالله أقسم. D'accord. أحلف بالله أو بالله أحلف. وأما الواو والتاء فإنه لا يشترط لها ذلك. Et dit, continuons en disant: تالله. Le fait de jurer avec la lettre ta, tallahi, hada warada fil Quran kathir. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? C'est un point important dans la langue arabe à retenir. Si on jure avec la lettre ba, on se doit de citer le verbe avant la lettre ou après la lettre. Hein? Tu dis uqsimu billahi ou bien billahi uqsimu. Hein? Tandis que ce n'est pas une condition pour les deux autres lettres, le wa ou le ta. Tu peux dire wallahi, tu peux dire tallahi. Hein? D'accord? Mais le cheikh il a dit يجب اقترانها, le fait de, hein, de la citer avec quoi, que ce soit avant متقدمن ou متأخرن. C'est-à-dire quoi? C'est de dire احلف بالله ou بالله يحلف. على كل حال, tu dois dire le verbe. C'est clair pour tout le monde? C'est assez facile à comprendre. Hein? Faut pas être si baoué pour comprendre ce genre de petites règles là, d'accord? Donc ici, le cheikh nous dit: par quoi Allah a-t-il juré dans cette noble sourate? Al-muqsamu bihi fi hadhihi as-surah al-karima ma huwa al-'asr. Parce qu'elle fait du jurer et tu jures par quelque chose, ce qu'on appelle en arabe, regardez la langue arabe, al-qasam fait du jurer, al-muqsamu bihi. Ce avec quoi, par quoi tu jures. D'accord? Et après on va voir qu'il y a jawab al-qasami. D'accord? Hein? Vous voyez que l'importance encore une fois d'apprendre la langue arabe. Il n'y a pas de secret, hein. Si on veut comprendre la religion avec une profondeur, avec des détails, hein, il faut apprendre la langue arabe. Et donc le cheikh continue en disant ici, quel est, il pose une question, et ça fait partie de la pédagogie en tant qu'enseignant, de poser des questions pour attirer justement l'attention des élèves. Et ce cheikh nous dit ici, par quoi Allah a-t-il juré dans cette noble sourate, hein? Et il dit al-asr, c'est-à-dire par le temps. Et quel est ce asr, quel est le temps par lequel Allah a juré ici? وما العصر الذي أقسم الله به هنا؟ هل هو الوقت المعروف من نهاية وقت الظهر حتى المغرب أو هو الدهر كله؟ hein? الشيخ répond en disant يجوز هذا وهذا وبكل من القولين قاله طائفة من أهل العلم. الشيخ qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il dit, quel est ce temps justement par lequel Allah a juré ici? Est-ce le temps connu qui débute à la fin du temps du dhuhr jusqu'au maghrib, hein? Ou est-ce le temps de manière générale, al-asr, le temps, c'est-à-dire le temps de manière générale, hein? D'accord? Qu'est-ce qu'on doit comprendre ici? Hein? Et Cheikh le dit ici, non, il dit, les deux sont permis. Hein? Et chacun des deux avis a été suivi par un groupe de savants. D'accord? Cheikh continue en disant, فَلَنْدُرْ مَا سِرُّ الْقَسَمِ وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ كَانَ الْعَصْرُ هَا هُنَا هُوَ الْوَقْتُ الْمَعْرُوفُ فَإِنَّ فِي صَلَاةُ الْعَصْرِ وَهِيَ أَحَدُ الْبَرْدَيْنِ وَهِيَ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى وَالْحَلِفُ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ خَطِيرٌ وَعَظِيمٌ فَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ الْأَوْقَاتِ وَصَلَاةُ الْعَصْرِ قَدْ جَاءَ الْحَثُّ عَلَيْهَا بِبَيَانِ فَضْلِهَا وَالتَّحْذِيرِ مِنْ تَرْكِهَا أَوْ تَفْوِيتِهَا. الشيخ الطالب العلم سيكيف التعليق يلدي حفظه الله يلدي يشير الشيخ حفظه الله إلى ما أخرج البخاري كتاب المساقات باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، ومسلم كتاب الإيمان باب بيان غرض التحريم إسباب الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم، وذكر منهم ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم. كيسك ندي شيخ عبيد الجابري إسي حفظه الله تعالى il nous dit voyons maintenant quel est le secret du fait de jurer ce qu'on appelle al-qasam. ما سر القسم ici hein? Et la science est chez Allah. Si le temps ici est le temps connu, il comprend alors aussi le temps de la prière de l'Asr. Hein? Le temps, il comprend aussi le temps de l'Asr. D'accord? Et la prière de l'Asr est l'un des deux bardain. Hein? Et alors ici, je vais vous rapporter, parce que c'est important de comprendre c'est quoi le terme de al-bardain. Hein? Ahad al-bardain, c'est quoi? Al-bardain, en fait, c'est le nom de deux prières. Pourquoi on les appelait bardain? Bien, j'ai été voir dans Cheikh Al-Uthaymin, le charh de Cheikh Al-Uthaymin, le charh de Riyad Salihin. Et qu'est-ce que nous dit Cheikh Al-Uthaymin? Il dit, Rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, il nous explique que ce sont les deux bardains, ce sont les temps du Subh et du Fajr. Parce que ça vient de la langue arabe, bard, qui veut dire froid, froideur. Hein? Bardan, en arabe, c'est ce qu'on appelle le duel. Hein? Quand on dit bardun, en arabe, c'est bardun wahidun, c'est-à-dire un froid. Bardani, quand on ajoute l'alif et le nun. Hein? Avec la kasra, c'est-à-dire le muthanna, duel, c'est-à-dire deux. Hein? Et ici on a dit ahadul bardaini, pourquoi? Bien parce que c'est une idafa, on est obligé de changer l'alif en ya, parce que nous sommes majrour bil ya, niyabatan al kasra, li annahu muthanna. Ça c'est, si vous voulez, un peu d'i'rab dans la langue arabe. En fait, c'est juste pour vous rapporter une règle, pourquoi vous dites, pour que. Vous vous souvenez une fois, il y a un frère qui m'avait demandé dans un des premiers cours qu'on a fait, il m'a dit, pourquoi tu as dit Abu Musa al-Ash'ari, alors dans le hadith il dit Abi Musa al-Ash'ari. Hein? Mais c'est un peu le même genre de règle ici. C'est-à-dire que le mot en arabe, eh bien, les noms variables en tout cas, ils se déclinent, hein, en fonction de leur quoi, de leur fonction grammaticale, d'accord, hein? Et ici, il est donc en situation de jar, mais le jar c'est pas toujours par la kasra. Pour ceux qui ont fait un peu de langue arabe, d'accord, des fois c'est par l'ia, et c'est le cas du muthanna. Hein? C'est juste pour que vous compreniez la différence entre al-bardan et al-bardain. Que si vous voyez une fois dans un livre al-bardan et une fois al-bardain, vous ne soyez pas surpris, d'accord? Ça va? Alors, Cheikh nous dit quoi? Nous dit ici que dans Riyad Salihin, comme salam, chapitre de la préscience de la prière du Subh et de la prière de l'Asr, que Al-Bardan, donc les deux Bards, Al-Bardan, ce sont Subh et Al-Asr. Car le Subh arrive dans la froideur de la nuit, c'est-à-dire à la fin de la nuit. Car en effet, le mot Bard veut dire froid en arabe. Hein? Et Bardan, comme je dis, duel, c'est-à-dire deux froids. D'accord? Et Al-Asr arrive dans la froideur de la journée, à la fin de la journée. C'est pour ça qu'on les appelle Al-Bardan. Donc vous comprenez maintenant ici la parole de Cheikh Abdel Jabiri quand il dit وَهِيَ أَحَدُ Al-Bardain. C'est-à-dire qu'une des deux salas dans le temps de fraîcheur, de froideur. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Hein? On revient, Inch'Allah, à la parole de Cheikh Abdel Jabiri, hein, que vous vous y retrouviez. Donc on revient à la parole de Cheikh Abdel Jabiri et il dit. Et elle est la prière du milieu. As-salatu al-wusta, na'am. Et le fait de jurer après al-asr est dangereux. Le Cheikh a dit khatir. Et il fait partie des temps les plus nobles. Et l'incitation à prier al-asr a été faite, à prier al-asr a été faite par la mise en évidence de sa préscience. Et la mise en garde contre son délaissement ou le fait de la prier après son heure. Alors le talib ilmi sur notre débat de page, j'ai rapporté un point intéressant qui dit concernant le fait de jurer après la prière de l'Asr, parce que le Cheikh a dit que c'était dangereux, comment est-ce qu'on va comprendre ça? Hein? Eh bien le frère, il a fait le travail pour nous, il dit Le cheikh fait référence à ce qui a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira radiallahu anhu ardah du prophète alayhi salatu wassalam qu'il a dit trois personnes. Allah ne leur adressera pas la parole le jour du jugement dernier et il ne les regardera pas. Il a cité parmi eux un homme qui jure en étant mensonger après l'Asr pour prendre l'argent d'un musulman. Hein? Alors ici un petit point que j'ai voulu vous rapporter. Je sais que vous savez que je n'aime pas trop sortir du livre, mais si on sort du livre pour aller voir dans un autre livre une parole d'un shir, il n'y a pas de mal quand c'est fait correctement. Et l'imam Nawawi rahimahullah a d'ailleurs rapporté dans son explication que ce n'est tellement parce que les anges de la nuit et les anges du jour se retrouvent à ce temps-là. Hein? Donc si vous voulez avoir plus de détails, c'est pour vous motiver un peu aussi à aller voir dans les sources, allez voir le sharh de Sahih Muslim de l'imam Nawawi qui s'appelle Al-Minhaj, bisharhi Sahih Muslim ibn al-Hajjaj, hein, qui est l'explication connue de Nawawi de Sahih Muslim, allez voir dans l'explication de ce hadith-là. Et c'est ce qu'il dit, d'accord? Donc on revient, hein? Au numéro du hadith. Le hadith dans le Bukhari, il est hadith 2369 et dans Sahih Muslim 293. Ça va? Fikabarak. Cheikh Ubaid continue en disant Hafizahullah, parmi les preuves sur la préscience de la prière de l'Asr, فمن الأول عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إلى القمر ليلة بدر فقال حديث والله يعني très très important et ça devrait nous motiver après le Fajr et l'Asr à leur temps évidemment jama'a et Cheikh Abdel Azzaq al-Badr il a rapporté ça quand il a fait ce hadith là dans quel sujet, dans quel cours lorsqu'il a parlé de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a rapporté parmi le fait que parmi les asbab, les causes, si on veut voir Allah Azza wa Jalla al-Qiyama, c'est de préserver ces deux salawat là. Écoutez le hadith. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. الحديث أخرج البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر ومسلم في كتاب المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما. Pour les frères qui veulent la référence, le numéro Bukhari رحمك الله 554 et Muslim 1432. Ça va? Alors Cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Il nous dit une des premières preuves qui nous montre justement la préscience, le fadl de la prière de l'Asr. C'est quoi? C'est le hadith rapporté par Jarir ibn Abdillah al-Bajali, radiallahu anhu ardah, kana l'agré. Il dit, nous étions chez le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il porta son regard sur la lune, une nuit de pleine lune, ce qu'on appelle Laylata Badrin. Ou Laylat al-Badr. C'est-à-dire une nuit de pleine lune. C'est clair, vous avez déjà vu, peut-être moins dans ce genre de pays ici, on a souvent des choses qui nous bloquent la vue. Mais pour ceux qui ont voyagé un peu dans les pays musulmans, vous voyez, quand le ciel est très clair, vous voyez la pleine lune, tout est clair. Mais regardez. Il porta son regard sur la lune, une nuit de pleine lune, et il dit, vous verrez certes votre Seigneur, comme vous voyez la lune, une nuit de pleine lune. Si vous pouvez donc faire qu'une prière avant le lever du soleil et une prière avant son coucher ne prennent le dessus sur vous, faites-le. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit essayer de quoi? De ne pas se laisser. Voilà, exactement. Et d'essayer de prier ces deux prières-là à leur temps et donner l'importance à ces deux prières-là. Et Cheikh ici dit, c'est-à-dire, Cheikh minhu, salatin qabla ghurubiha. Ay, ghurub shams. C'est-à-dire, pourquoi le Cheikh a rapporté ici le hadith? Qui s'est rapporté? Vous rappelez qu'on a fait le livre de Cheikh Rabi', on est maintenant peut-être apte à commencer à tirer à extraire des ahkam, des ahadith. Qui sait me dire comment, je vais vous aider un peu, comment est-ce qu'on a tiré la préscience de Salat al-Asr du hadith? Ma wajhu l'istidlal min al-hadith ala afdaliyati Salat al-Asr. Qui sait me dire? Tfaddal. Non. C'est très bien ce que tu dis. Et je vais te répondre en te disant Où est-ce que salat asr est citée ici? Exactement, tu vois. C'est une prière avant le coucher et une prière avant le lever. Vous voyez, c'est de là. Et c'est pour ça que Cheikh a dit en arabe, regardez le mot pour ceux qui ont le livre, je vois qu'il y a plusieurs frères qui ont le livre. C'est quoi? C'est Ash-shahidu. Ash-shahidu minhu salatin qabla ghurubiha. Donc, si tu sors le hadith pour, à quelqu'un, et qu'il te dit, oui, mais comment tu vois qu'il y a un fadl salat fajr, fajr al-subh? Tu dis, regarde, avant le lever, qabla, qabla tulu'iha, et avant le coucher, qabla ghurubiha. C'est wadih, c'est clair, ça va? D'accord? C'est-à-dire le coucher du soleil, et c'est la prière de l'asr. C'est-à-dire, avant le ghurub, c'est le coucher du soleil, et c'est la prière de l'asr. Et Cheikh nous dit, un point important ici, il nous dit, هذا الحديث يدل على أمرين page 18 pour ceux qui ont le livre. الأول إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. الثاني فضل صلاة الصبح والعصر. Cheikh nous dit ici, on tire deux choses, ou ce hadith indique deux choses. La première, l'affirmation de la vision de leur Seigneur le jour du jugement dernier. Pour qui? Pour leur, pour les croyants. Non, pour les croyants. Deuxième chose qu'on tire du hadith, ou que le hadith indique, c'est la préscience, le fadl, de la prière du subh et de la prière de l'asr. Autre preuve. ومن ذلكم ما جاء في الحديث الصحيح أنه لما شغل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر يوم الخندق قال شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. Pour ceux qui veulent le numéro du hadith, il est dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, et il est avec le numéro 1425 d'après Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wa arda. Donc, parmi les preuves qui nous montrent justement la préscience de Salat al-Asr et son importance, c'est ce qui a été rapporté dans le hadith authentique, que les associateurs, les mushrikoun, lors de la bataille d'Al-Khandaq, ont occupé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à tel point qu'il n'a pas pu la prier qu'après le coucher du soleil. D'accord? Et je regarde ici parce que moi dans les riwayats que j'ai trouvé c'était l'Ahzab. Il faudrait vérifier ça inshallah. Il dit, ils m'ont occupé, c'est-à-dire empêché de prier la prière du milieu. Quelle est la prière du milieu? Salat al-Asr. La prière du Asr. Et d'ailleurs, regardez bien le hadith qui est en arabe. Cheikh Rawi ne vous le dit pas ici, mais dans Fath al-Bari, dans Sharh al-Imam Nawawi, vous allez voir que les ulama qui disent que Salat al-Wusta, Salat al-Asr, ils utilisent ce hadith-là comme dalil. Regardez le hadith. شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. Ils m'ont occupé, ils m'ont empêché de prier la prière du milieu, la prière de l'asr. Donc c'est quoi? C'est un dalil pour ceux qui disent que صلاة الوسطى c'est صلاة العصر. D'accord? ومن الثاني هو التحذير من تركها أو تفويتها. قوله عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. والحديث أخرج البخاري من حديث ابن عمر numéro 528 pour ceux qui veulent la référence. وحذر صلى الله عليه وسلم من التهاون فيها حتى يفوت وقتها من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. والحديث أخرجه أحمد وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع. Donc qu'est-ce que nous dit Cheikh Abdel Jabiri ici? Et parmi les preuves sur la mise en garde, donc on a montré la préscience, Salat al-Asr. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On montre les preuves qui mettent en garde sur le fait de quoi? De son délaissement ou son retardement. Il y a une différence entre tark et tefuit. Parce que le cheikh est précis ici quand il a dit tark ou tefuit. D'ailleurs, dans les deux riwayats que vous allez voir, regardez, et quand vous allez voir dans Fath al-Bari et le Sharh de l'imam Nawawi, vous allez voir, regardez ici dans Fath al-Bari, il dit Man taraka Salat al-Asr faqad habita amalo. Et juste après, man fatathu salat al-asr. Fakannama watira ahlahu wa malahu. Donc, la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, donc parmi les preuves sur la mise en garde contre le délaissement de salat al-asr ou son retardement, celui qui délaisse la prière de l'asr, alors vaine devient son action. Alors Ibn Hazar, dans le Fath, il faudra aller voir, inshallah, hein, je ne voulais pas rapporter pour vous motiver à aller le voir, qu'est-ce qu'il a dit par rapport au fait de, que son action est vaine. Il faut faire attention de ne pas comprendre comme... Hein, certaines personnes pourraient le comprendre. Il a rapporté différents avis et il a fait ce qu'on appelle la tarjih. Il a rapporté selon lui l'avis le plus fort, d'accord. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde sur le fait d'être négligent en point de la prier après son heure. Et a dit, celui qui a laissé passer la prière de l'Asr, c'est comme s'il avait perdu ses proches et ses biens. Et regardez aussi, hein, dans l'explication de ce hadith-là, car le mot « watira ahlahu wa ma'alahu », les ulémas ont différents avis sur ce sens-là. Et je vous ai, moi j'ai choisi cet avis-là. C'était quoi? C'était le fait de... c'est comme s'il avait perdu sa famille et ses biens. Donc vous voyez la gravité ou en tout cas la grande mise en garde sur le fait de délaisser ou d'être négligent par rapport à Salat al-Asr. Et donc le hadith a été rapporté par Ahmed d'après Ibn Omar et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahmatullah alayhi dans Sahih al-Jami'. Pour ceux qui veulent la référence dans Sahih al-Jami', 5491. Cheikh continue en disant « In kana al-muqsamu bihi al-dahru » فإن فيه من عجائب صنع الله وعظيم تقديره ما يبهر العقول فإنه فيه العصر الذي هو الزمن كله أو الدهر كله يحيي الله يميت ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويعطي ويمنع وفيه تتابع النبوات على البشر وذلك خير عظيم والقسم لابد له من جواب إما ظاهر وإما مقدر فما جواب القسم هنا في هذه الصورة إن الإنسان لفي خسر حكم الله سبحانه وتعالى بخسر جميع الإنسان إلا من استثني بعد إن الإنسان لفي خسر والإنسان يراد به الجنس إن الإنسان أي عموم الإنسان لفي خسر وهو ضد الربح هذا العموم استثنى الله عز وجل منه من اتصف بأربع صفات شيخ عبيد الجابري ندي Si ce par quoi Allah a juré est le temps, il y a dans ce temps l'œuvre d'Allah étonnante et son ordre conçu sublime de quoi étonner les raisons. Il y a en lui le temps qui, hein, c'est-à-dire à toutes les époques, hein, Allah fait vivre et mourir. Il élève et abaisse. Il rend puissant et humilie. Il donne et interdit. Il y a dans ce temps également la succession des prophéties à l'humanité. La succession des différentes prophéties à l'humanité. Et cela est un bien immense. Lorsqu'on jure, il est obligatoire qu'il ait une réponse, que je vous ai dit tout à l'heure qu'on appelait quoi ? Jawab al-Qasam. Qu'il soit apparent ou sous-entendu, ce qu'on appelle en arabe, quoi ? Zahir ou Muqaddar. Vous voyez toujours, hein, je sais que ça peut paraître un peu technique, mais c'est important des règles comme ça. Et vous voyez que si on n'a pas des bases en grammaire arabe, on a difficile à comprendre la religion. Hein ? Donc, quel est donc ce Jawab al-Qasam ici dans cette sourate ? Cheikh nous dit Inna al-insana la fi khusrin. Certes, l'homme est en perdition. Parce que regardez, quand vous regardez la langue arabe, hein, pour les frères qui ont un peu d'arabe, wal asr. Inna al-insana la fi khusrin. Hein ? Certes, l'homme est en perdition. Allah a décrété que l'humanité entière est en perdition. Sauf, illa en arabe, illa. Sauf ceux qui ont été cités. Après, dans l'exception. Regardez la langue arabe. Inna al-insana la fi khusrin. C'est-à-dire, toute l'humanité est en perdition. Est-ce qu'on s'arrête? Non. On est, hein? Faut continuer. Illa, sauf. Hein? Illa. Et vous allez voir que Cheikh a dit, il va dire plus loin, et c'est ce qu'on prend de la suite de la sourate, c'est que sauf les gens qui réunissent quatre caractéristiques. C'est-à-dire, tout le monde est en perdition. À l'exception de qui? Des gens qui regroupent quatre caractéristiques. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Quatre caractéristiques. On va les voir inshallah ensemble. Donc l'humanité, hein, cher dit ici, certes l'homme est en perdition, ce qui est voulu par al-insan dans la langue arabe ici c'est toute l'espèce humaine. Certes l'homme, c'est-à-dire l'humanité dans son entièreté. Il y a une chose qui m'a étonné quand j'ai regardé dans la traduction du Coran qui est éditée par l'Arabie Saoudite, c'est que l'homme il est avec un petit AH. Hein? Alors que quand on veut parler de l'humanité, hein, en général, la langue française, on met un grand H. Hein, ce qui comprend les hommes et les femmes, c'est-à-dire toute l'humanité. D'accord ? Certes, l'homme est en perdition, et ce qui est voulu par l'insan, ici, c'est toute l'espèce. Certes, l'homme, c'est-à-dire l'humanité dans son entièreté, est en perdition. Et quelle est la perdition ? Khusr, pour les frères qui veulent un peu de langue arabe aussi, khusrun, c'est le contraire de ribhun, c'est le contraire du gain. Hein ? D'accord ? Allah a fait de cette généralité, hein, a fait de cette généralité l'exception de ceux qui regroupent quatre caractéristiques, quatre attributs, si vous voulez. C'est ce que le cheikh a dit ici en langue arabe. Il a dit هذا العموم استثنى الله عز وجل منه من اتصف بأربع صفات. Ce qu'on appelle l'istithna dans la langue arabe. Pour ceux qui ont fait l'ajrumia ou qui veulent la faire, il y a un bab là-dedans, hein, dans l'istithna, vers la, si je me souviens bien, vers la fin. Hein? Et regardez un peu, vous allez voir les différents types de sisna, ce qu'on appelle mustasna minha, etc. D'accord ? وهذه الصفات هي الأولى الإيمان الثانية العمل الصالح الثالثة التواصي بالحق الرابعة التواصي بالصبر هؤلاء الموصوفون بالصفات الأربع هم الناجون من الخسران. Qu'est-ce que Cheikh Abou El-Jabiri nous dit ici ? Hein ? Et c'est important, si on veut quoi ? Si on veut être sauver de la perdition. On devrait, hein, bien ouvrir nos oreilles, en tout cas plutôt nos cœurs, à ce qui va être dit ici, pour essayer de bien comprendre c'est quoi ces caractéristiques-là, pour essayer qu'elles soient en nous, ces caractéristiques-là. Hein, et qu'on soit doté de ces quatre attributs, si on veut être sauvé de la perdition. Qu'Allah nous en préserve. Hein, et donc ces attributs sont, le premier, la foi, l'iman. La deuxième, l'amal salih. Et regardez l'ulama, subhanallah. Des fois, quand on lit les paroles des savants, on peut ne pas prêter attention à leur précision. Hein? Parce que justement, on n'a pas leur précision. Hein? Mais regardez Shir, il n'a pas dit l'amal. Il a dit l'amal salih. Et c'est ce qui est dans le verset. Illa alladhina amanu wa amilu salihati. Allah Azza wa Jalla n'a pas dit wa amilu. Hein? Il a dit wa amilu salihati. Hein? Et vous allez voir que Shir va expliquer ce que ça veut dire. Donc la première, c'était la foi. La deuxième, c'est l'action vertueuse, l'amal salih. Trois, at-tawasi bil-haq, s'enjoindre mutuellement la vérité. Et c'est ce qui nous manque beaucoup aussi. Hein? Et tawasi bil-sabr, c'est ce qui nous manque aussi beaucoup, s'enjoindre mutuellement la patience. Ceux qui ont ces quatre attributs sont sauvés de la perdition. Donc, Cheikh continue en disant المراد تطبيق وجه الدلالة من السورة على المسائل الأربعة فالشيخ ذكر أربع مسائل واستدل عليها بهذه السورة فما وجه الاستشهاد عندنا العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأداء فيه. Regardez Cheikh comment il nous dit qu'il va venir des طلاب العلم. On a un livre qu'on lit. Il commence par dire إعلام رحمك الله sache, un ordre pour attirer notre attention. Dua, rifq, avec le mud'ou, comme on a dit. Vous voyez, on commence à connaître les livres par cœur maintenant. Hein? I'alam, rahimakallah. Annahu quoi? Yajibu alayna. Qu'est-ce qui nous est obligatoire? Est-ce que c'est mustahab? Non, c'est obligatoire. Alayna ta'allumu, l'apprentissage de arba' masail, quatre choses. Al-oul, al-ilmu. Wa ma'rifatullah, wa ma'rifati nabiyyihi, wa ma'rifatu dini l'islam bil-adilla. Al-thaniya, al-amalu bih. الثالثة الدعوة إليه الرابعة الصبر على الأذى فيه والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Comment regardez, Cheikh il a rapporté quatre choses et après il rapporte une sourate. Comment, encore une fois, voyez, wajh l'istidlal, wajh d'dalala, comment est-ce qu'on va prendre de cette sourate là les quatre points? Et c'est ce que Cheikh va faire ici. D'accord? Donc, Cheikh Mohamed Al-Wahhab, dans son livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, a apporté quatre points. Et a rapporté comme preuve pour ces quatre points la Sourate Al-Asr. Donc, comment faire le rapport entre les quatre points et la preuve? Eh bien, nous avons l'Iman. Ou en tout cas, nous avons l'Ilm d'abord. Nous avons la mise en pratique, la science, et puis la mise en pratique, l'Amal Ubi. Ou Ad-Dawatu Ilay. Hein, et le fait d'y appeler. Ou Sabr Al-Adafi. La patience sur les préjudices encourus. Quelle est la preuve de la science dans cette sourate? Quelle est la preuve de la science? Qui a la connaissance d'Allah, et la connaissance de son prophète, et la connaissance de l'islam par l'épreuve. Regardez comment Cheikh nous donne la réponse. On a la science, qui fait partie des quatre points. Il la définit. C'est quoi? La connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, la connaissance de l'islam par avec l'épreuve. D'accord? Cette science, qui est ces trois connaissances-là, hein, qui est cette connaissance-là, eh bien, quelle est sa preuve dans Surat Al-Asr? Eh bien, Cheikh dit, c'est la foi, l'iman, illa alladhina amanu. ووجه ذلك أن الإيمان في اللغة تصدق. Comment est-ce qu'on va comprendre ça? Que cette connaissance c'est l'iman, la foi. Car l'iman dans sa définition linguistique, attention, dans sa définition linguistique, parce que vous savez qu'il y a dans le jargon des ulama, si vous voulez, dans le jargon de la législation islamique, vous savez qu'il y a toujours un ma'na lughawi et un ma'na istilahi. Hein? C'est-à-dire que les mots, ils ont une signification, barakallahu fik, un sens dans la langue arabe, et les exemples sont nombreux là-dessus. Et Hassan Abou Asma, dans un cours, il en avait répertorié quelques-uns, notamment sur le mot dabba. Hein? Qu'est-ce que veut dire le mot dabba? Dans le Coran, vous allez voir que le mot dabba, hein, il a des sens, il a des significations. D'accord? Hein? Et ici, voilà encore un bon exemple ici. Hein? Al-Lura, dans l'Lura, c'est at-tasdiq, c'est-à-dire le fait de croire. Et dans sa définition, dans la législation islamique, dans le jargon de la législation islamique, c'est quoi? Fil istilah, huwa aqawlun bil lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, wa 'amalun bil jawarihi. Wa yazidu bit ta'ati, wa yanqusu bil ma'siyati, wa hadha huwa tamam al 'ilmi billah wa bin nabiyyihi 'alayhi salatu wassalam wa bi dinihi. Allahu akbar. Voilà, on a fini pour le premier point. Alors ici, par rapport à la définition de l'iman, je vais la citer en français, et après je vais vous interroger parce que vous êtes censé la connaître avec les cinq nouns. Vous connaissez, vous rappelez les cinq nounettes? Hein? On va voir ça dans quelques instants. Hein? Et dans sa définition de la législation islamique, c'est une parole de la langue, une croyance du cœur et une action des membres. Hein? Et c'est la définition d'Al-Sunnah. Et ça continue encore en disant, elle augmente avec l'obéissance d'Allah. Et elle diminue avec la désobéissance d'Allah. Hein? Alors, qui sait me rapporter les cinq nounettes? C'est facile, hein? Qui se lance? Personne. En France, pour avoir les nounes, avec les nounes, il faut que ce soit en langue arabe, sinon tu n'auras pas les nounes. Hein? Vas-y, continue. Hein? قول باللسان وانا نعم قول باللسان نون قول باللسان نعم يا فن نون سيتي كوني هذا سينونيم دي مو قلب اعتقاد بالجنان الجنان ها اعتقاد بالجنان ايوا زيد وعمل نغمس الجواب بالاركان بارك الله فيك 3 دونك قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان أنا هنا بزنكر الدنون بارك الله فيك يزيد بطاعة الرحمن بطاعة الشيطان سي جوست كو تي دي مي اون شيرش دي نون اون ريبيت انسام بور لا ميموريزي سي ريغاردي لا لانغ عربي كوم الي بيل هان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. Voilà, on a étudié l'iman avec cinq nounat. Cheikh Fala Ismail, quand il vient ici, souvent il la rapporte là, hein, de ses chouyoukha, lui comme Hamad Al-Ansari, rahmatullah alayhi, et Cheikh Mohamed Amal Jami. C'est des chouyoukha, juste on cite leur nom, on a déjà la pouki, hein, subhanallah, hein, Hamad Al-Ansari, rahmatullah al-allama, hein, Mohamed Amal Jami, spécialiste dans l'aqidah. Bien, il rapportait, regardez les définitions, comment ils nous rendent facile les ulama, hein, la mémorisation des définitions. Qulun bil lisan, i'tiqadun bil janan, 'amalun bil arkan, yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ta'ati ash-shaytan. Voilà, on connaît l'iman, c'est Ahl Sunnah, qu'est-ce que c'est? D'accord? Continuons en disant quoi? Et c'est cela la connaissance complète d'Allah, et de son prophète, et de sa religion. Le deuxième point, comment est-ce qu'on tire le deuxième point de la sourate? C'est quoi le deuxième point? Qui me le rappeler? Non mais attends, t'as déjà été au dalil toi. D'abord avant le dalil, c'est quoi le deuxième point dont on a besoin, pour lequel on a besoin d'un dalil? C'est quoi? Al-amal, barakallahu fik, al-amal bih. Hein? Le fait de le mettre en pratique. Comment est-ce qu'on tire ça ici de la sourate? Qui semble dire? Wa'amilu s-salihat. Hein? المسألة الثانية العمل ودليلها وعمل الصالحات وضابط العمل الصالح هو ما توفر فيه الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبان بهذا أنه ليس كل عمل صالحا ها؟ كيف كنت أقول شيخ عبد الجابري حفظه الله جزا الله خير الجزاء il nous dit c'est quoi le deuxième point la mise en pratique et la preuve sa preuve est ils accomplissent les bonnes œuvres وعمل الصالحات. Et la règle de l'action vertueuse, de la bonne œuvre, c'est quoi? C'est que l'action regroupe la sincérité pour Allah et le suivi des messagers d'Allah. C'est-à-dire que pour une action, elle soit une bonne œuvre, une action vertueuse, elle doit regrouper deux actions, la sincérité et le suivi, la conformité à la sunna. Donc, hein, vous suivez bien, si vous vous concentrez, je sais que c'est un peu difficile. Alhamdoulilah que les gens sur Internet ne voient pas tout ce qui se passe ici. Hein. Donc, ici, on a un point important, c'est l'amal au bé. Hein, d'accord? Qui est tiré de quoi? Wa amilu salihat. L'amal au salih, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous savez que le cheikh est très précis, il a dit l'amal au salih. Hmm? C'est qu'on n'a pas dit l'amal, il a dit l'amal salih. Et c'est quoi son dhabit? Quel est hein, le dhabit, la condition pour laquelle quoi? Pour que l'action elle soit une bonne œuvre, pour que l'action ce soit une action vertueuse. Ma dhabitu l'amal salih, ou liyakuna l'amal saliha. Hein? Et bien c'est quoi? C'est qu'il réunit deux conditions, qui sont les conditions de, que vous avez dit, de l'adoration, et pour l'adoration soit acceptée par Allah Azza wa Jal. On les répète encore une fois, c'est l'ikhlas ou al-mutaba'a. Un verset du Coran, dernier de surat al-Kahf. Qui reprend les deux, c'est... Allez, vas-y, Jumu'a. Allez, vas-y, Jumu'a. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ وَلَا يُشْرِكْ بِعَبَادِ رَبِّي أَحَدًا. La langue arabe ici, c'est parce qu'il y a un shart et un jawab shart. C'est pour ça qu'il y a un sukun. فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ. Il ne dit pas fait amalou, fait amal, amalan saliha, wa la yushrik bi'ibadati rabbi ahada. D'accord? C'est le dernier verset, pour ceux qui veulent la référence, de Surat Kahf, hein, qui reprend les deux conditions de l'adoration. C'est quoi? Faman kana yarju liqa'a rabbi, fa li'amal amalan saliha, ça c'est la conformité à la sunna, wa la yushrik bi'ibadati rabbi ahada, la sincérité. Hein? Que l'adoration soit vouée de manière exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, le troisième point, la mas'alat al-thalitha, ma shahiduha, wa tawasaw bi bil-haqqi. Ay, yusi ba'duhum ba'dan bil-haqqi. Wal-haqqu yu'arafu min al-kitabi wa sunnati, wa ijma'i salafi al-salihi min al-sahabati wa a'imati al-tabi'in wa man ba'dahum. Falaysa al-haqqu fi afkari al-bashar, wa manahij al-bashar, lianna kulla firqati min al-thalati wal-sib'in, tadda'i anna amalaha haqq. Walitiqama al-dalilu ala ahakati amaliha, فرقة واحدة فقط أما 72 فرقة فعملها باطل وإن كان يوجد عندها شيء من الحق فما من فرقة من 72 فرقة إلا وعملها فيه شيء لكن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة عملها كله حق أما بقية الفرق فإنها ضالة مضلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث افتراق الأمم قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال الجماعة هذه الرواية الصحيحة هذه الجماعة ناجية ومنصورة أما 72 فرقة فهي خاسرة هذه المسألة الثالثة التواصي بالحق والحق كما قلنا ما قام الدليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع من السلف من سلف الأمة. Donc qu'est-ce que nous dit le cheikh ici sur le troisième point qui est quoi? Le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité. Quelle est la preuve? C'est-à-dire qu'ils s'enjoignent, ils s'enjoignent mutuellement la vérité. Dans surat al-Asr on a إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. Elle est là la preuve. Et s'enjoignent mutuellement la vérité. C'est-à-dire qu'ils s'enjoignent chacun l'un à l'autre la vérité. Cette vérité est connue par le Coran et la Sunna. Et le consensus des pieux prédécesseurs, c'est-à-dire l'unanimité parmi les compagnons et les imams des successeurs, et les tabi'in, et ceux qui leur ont succédé. La vérité n'est pas dans les pensées des gens, ni dans les différentes voies des gens, car chaque secte parmi les 73 sectes, les 73 sectes, prétend que son action est une vérité. La secte dont la véracité de l'action a été prouvée par la preuve est unique. Tandis que l'action des 72 autres sectes est nulle, même si ces sectes ont une part de vérité. Il n'y a pas de secte parmi les 72 sans que dans son action il y ait une part de vérité. Mais le groupe sauvé, le groupe victorieux, son action est entièrement vraie. Et tout entière une vérité. Tandis que les autres sectes sont égarées et égarantes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en a informé dans le hadith sur la division de la communauté, il a dit, ma communauté va se diviser en 73 sectes tout en enfer sauf une. Ils dirent, quelle est-elle au messager d'Allah? Il répondit, la jama'a. Et ce hadith a été rapporté par un groupe de compagnons, parmi eux Mu'awiyah ibn Abi Sufyan, Abu Huraira, Anas ibn Malik et d'autres encore. Et le hadith a été rapporté par Ahmed et Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ibn Majah. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit, le hadith est authentique et mashhour. Si on peut traduire ça de manière très littérale, je vous ai dit que je ne vais pas traduire les terminologies dans le hadith, parce que ça peut prêter à confusion. Hein? Mashhour, célèbre, hein? Voire Majmou' al-Fatawa de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, volume 3, page 345. Et le hadith aussi a été authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah dans Al-Sisla al-Sahiha, numéro 204. Et il s'y est d'ailleurs attaché à réfuter ceux qui essaient de rendre le hadith faible. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui se passe? C'est que les sectaires, ils essaient de rendre le hadith faible, évidemment. Hein? Et Cheikh al-Albani, rahmatullah alayhi, dans le Sisla al-Hadith Sahiha, 204, je pense que je me souviens, mais c'est le premier volume, eh bien, vous allez voir qu'il s'est attaché à réfuter les arguments, ou les pseudo-arguments, qu'apportent ceux qui veulent essayer de rendre faible le hadith. Et Cheikh nous dit, la riwaya ici avec la jama'a, c'est ici la version qui est authentique. Et cette jama'a est sauvée et victorieuse, quand on dit que les 72 sectes sont perdues. Ceci est donc le troisième point, s'enjoindre mutuellement la vérité. Et la vérité, comme nous l'avons dit, est ce qui est basé sur les preuves du Coran, la Sunna et le consensus des plus prédécesseurs de la communauté. Hein? Avec ça, on a fini le troisième point. Quatrième point, j'espère qu'on aura le temps de terminer aujourd'hui, inshallah. Le quatrième point, Cheikh nous dit, « Mas'alatu al-rabi'a, shahiduha, adhunnuhu wadiha. » وتواصوا بالصبر هذه لفتة إلى أن أهل السنة وأهل السلف لا يستعجلون ولا يأخذهم الطيش ولا الشطط يوصي بعضهم بعضا بالصبر ينالهم ما ينالهم من الأذى مع هذا يصبرون ويصابرون ويتواصون بالصبر والصبر لغة الحبس والمنع واصطلاحا وحبس اللسان عن التشكي والتسخط والنفس عن الجزع والجوارح عن لطم الخدود والشق الجيوب ونحو ذلك من القبائح المنافية للصبر وهو عند أهل الشرع ثلاثة أقسام الأول صبر على طاعة الله حتى يؤديها أو يؤديها كاملة أو قريبة من الكمال في قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم سورة التغابن يجب أن يؤدي الطاعة كاملة وإذا عجز سدد وقارب الثاني أو القسم الثاني صبر عن معصية الله حتى يتجنبها الثالث الصبر على أقدار الله والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد وقد ذكره الله عز وجل أكثر من 80 مرة في القرآن وإذا نظرت في حال الأنبياء والمصلحين وجدت أنهم أصبر الناس على تبليغ الدين وتعليمه العباد على وجه الصحيح وهذه المسائل الأربع هي مراتب جهاد النفس فالإنسان يجاهد نفسه أولا وثانيا وثالثا ورابعا. On va d'abord, avant de voir ces quatre points-là, on va d'abord s'attacher à traduire ce qu'a dit Cheikh Obed avant pour pas hein, que ce soit trop long pour les frères qui ne comprennent pas la langue arabe. Donc, Cheikh nous dit ce quatrième point-là, quel est-il ? Je pense que la preuve est claire, il dit. Et c'est la preuve sur quoi ? Sur le quatrième point qui dit s'enjoindre mutuellement quoi ? La patience, l'endurance. At-tawasib al-sabr. Il dit ceci attire à notre attention sur le fait que les gens de la sunna et du consensus et les gens des pieux prédécesseurs ne se précipitaient pas. Hein ? L'irréflexion et l'exagération ne faisaient pas partie de leur attribut. D'accord ? Hein ? Et la preuve ici est vraiment très claire. C'est quoi ? Et s'enjoignent mutuellement la patience. Hein ? وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. Ils s'enjoignent, donc les gens de la sunna, ils s'enjoignent mutuellement la patience. Ils n'ont pas cette, hein, cette précipitation, cette irréflexion que vous trouvez chez Ahl Bida ou Ahl Hizbiya. Hein ? Ils sont touchés par les préjudices et les torts, et malgré cela, ils patientent, ils usent de patience envers les autres, et s'enjoignent mutuellement la patience. La patience, qu'on appelle as-sabr dans la langue arabe, hein, dans le sens linguistique, c'est ce qu'on appelle en arabe al-habs ou al-man'a, c'est-à-dire le fait d'interdire, d'empêcher, de retenir. Dans la législation, dans le jargon de la législation, c'est le fait de retenir sa langue, de se plaindre et d'exprimer son mécontentement. Et de retenir hein, son nefs, d'être impatient. Et de retenir les membres, de se frapper les joues en guise de lamentation ou de déchirer les poches. Hein. Vous savez souvent ça dans les pays arabes, quand il y a un décès ou quoi, vous voyez les femmes qui s'arrachent les vêtements et qui se griffent et qui se giflent, etc. Hein, et c'est interdit, hein, vous le savez que c'est interdit dans la sunna et que ça va à l'encontre de la patience. Hein, ça oppose la patience. D'accord ? Et Cheikh dit, ou encore autre parmi ces mauvaises choses qui s'opposent à la patience, justement. La patience se divise chez les gens de la législation en trois parties. La première, c'est patienter dans l'obéissance d'Allah jusqu'à ce qu'on a quitté de manière complète ou proche de la perfection. Donc c'est quoi la patience sur l'obéissance d'Allah ? As-sabru ala ta'atillah azza wa jal. Hein ? Jusqu'à ce que tu t'en acquittes de manière complète ou proche de la perfection. D'accord ? Et ce, en raison de la traduction de la parole d'Allah, craignez donc Allah donc autant que vous pouvez. Fattakullah mustata'atum surat al-Taghabun. Hein ? Verset 16. Il est obligatoire de s'acquitter d'un acte d'obéissance de manière complète. Et si on n'est pas capable de faire au mieux, ou ce qu'on appelle au plus proche, hein ? Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième chose, deuxième genre de sabre, ou deuxième type, catégorie de sabre, deuxième hein, division, si vous voulez, d'accord, catégorie, c'est le fait de patienter pour ne pas commettre un péché. Hein? Jusqu'à s'en écarter. Donc vous voyez, le premier c'est quoi? C'est patienter sur l'obéissance. Parce que c'est vrai que l'obéissance, ta'a, demande de la patience, beaucoup de patience. Le fait aussi de patienter quand on veut faire un haram, ça demande beaucoup de patience également. D'accord ? Et la troisième, c'est quoi ? Patienter à ce que Allah a décrété. Quant à ce que Allah a décrété. La patience occupe par rapport à la foi, hein ? La place que la tête occupe par rapport au corps. C'est ce que Cheikh dit ici. C'est pour montrer l'importance de la patience. Hein ? C'est une image pour vous montrer quoi ? C'est que la place de la patience et l'importance de la patience. Allah subhanahu wa ta'ala l'a cité plus de 80 fois dans le Coran. Hein? Et si tu médites la situation des prophètes alayhi salatu wassalam, et des réformateurs, tu sauras qu'ils sont les plus patients des gens quant à la transmission de la religion et à l'enseignement des gens de la manière correcte. Ces quatre points, donc ces quatre points qu'on vient de rapporter, hein, sont les différents degrés de la lutte contre soi-même. Car l'individu lutte contre soi-même dans, premièrement, la connaissance de la guidance. Hein? Et de la religion de vérité. Et c'est la cause du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. On va d'abord peut-être lire en arabe. Hmm? Donc Cheikh nous dit ici en fait, ce qu'il appelait Mujahadat al-Nafs, أولاً على معرفة الهدى ودين الحق وأنه سبب السعادة في الدنيا والآخرة وبقدر ما يفوت النفس من معرفة الهدى ودين الحق بقدر ما يفوتها من السعادة في الدنيا والآخرة. ثانياً العمل بما علمه الله من الهدى ودين الحق حتى لا يكون العلم حجة عليه. ثالثا دعوة الناس إلى ما من الله به عليه من الهدى ودين الحق لأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجور تابعيه ولا ينقص من أجورهم شيء. ورابعا صبره على ما يصيبه في هذا السبيل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن مضى قبله من النبيين والمرسلين ومن جاء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام من الصحابة وأئمة الهدى إلى اليوم. وليس المسلم قاصرا همه على هداية الناس على يديه، بل يهتم بتبليغ حجة الله وأن الله مظهر دينه إما على يديه أو على يدي من يأتي بعده. أما أن يقصر همه على هداية الناس على يديه دون أن يفكر في العواقب فهذا خطأ وقصور. Donc, cher, qu'est-ce que nous dit ici? C'est un point comme très important, ce qu'on appelle ce mujahadat nafs, le fait de lutter contre son nafs. Hein? C'est quoi? C'est le fait de lutter dans la connaissance de la guidance et de la religion de vérité. Et c'est lutter contre, donc, contre soi-même dans la connaissance de la guidance et de la religion de vérité. Et c'est la cause du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. En fonction de ce qui manque à l'âme, hein, de la connaissance de la guidance et de la vérité, il lui manquera du bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Deuxièmement, donc on lutte contre soi-même dans la mise en pratique de ce que Allah, hein, nous a appris de la guidance et de la religion de vérité. Et ce, afin que la science ne soit pas une preuve contre nous. Troisièmement, c'est le fait d'appeler les gens à ce que Allah l'a comblé comme guidance et religion de vérité. Ça aussi, ça demande une mujahadat nafs, hein, de lutter contre soi-même. Car celui qui appelle à une guidance aura la récompense identique de ceux qui le suivent, sans que cela ne diminue en rien leur récompense. Quatrièmement, sa patience quant à ce qui le touche dans cette voie, en prenant exemple sur le messager d'Allah et ceux qui l'ont précédé. Donc vous voyez que le Cheikh nous dit quoi? Que la patience sur ces quatre points-là, eh bien, ils vont avec quoi? C'est les mêmes, si vous voulez. Ça correspond aux quatre maratib degrés, aux quatre choses, quatre parties de ce qu'on appelle mujahadat nafs. Parce que justement, tu jahades ton nafs, tu luttes contre toi-même, contre ton nafs, sur ces quatre points-là. La connaissance de la guidance, la mise en pratique, l'appel et la quoi? Les torts et les préjudices encourus lors de cet appel-là. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on est patient quand est-ce qu'il nous touche dans cette voie, lors de cet appel à cette voie? Eh bien, en prenant exemple sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui l'ont précédé parmi les prophètes, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et les messagers, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui sont venus après notre prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, parmi les compagnons et les imams de la guidance jusqu'à nos jours. Le musulman ne se limite pas à vouloir que la guidance des gens se fasse par ses mains, hein, mais de plus, il s'attache à transmettre la preuve d'Allah, et qu'Allah rende sa religion victorieuse, que ce soit par lui ou par les gens qui lui succèdent. Et ça, c'est un point très important. Hein? Faut pas avoir cette vision limitée. Hein? Et Cheikh, regardez, ça va être très clair dans ce qu'il dit ici. Il dit quoi? Il dit, car le fait de se limiter à vouloir guider les gens, hein, qu'il se limite à vouloir guider les gens lui seul, sans qu'il réfléchisse aux conséquences, ceci est une erreur et un manquement. Hein? D'accord? Ça, c'est clair pour tout le monde. Je crois que peut-être s'arrêter là-dessus aujourd'hui, Inch'Allah, pour que ça fasse pas trop long. Et le point suivant, Inch'Allah, ce sera la parole de l'imam Shafi'i, rahimahullah. Qala al-musannifu, rahimahullah. Qala al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Lo manzalallahu ala khalqihi alladhi surat ala kafatuhum. السلام وسغتي لاتسي بو جوردي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وجزاكم الله خيرا.
استووا. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.